Chaque année, des milliers de personnes fuient la guerre, la répression, les persécutions. Elles prennent la route de l'exil et affrontent de nouveaux périls dans l'espoir de trouver une terre d'asile. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour celles qui arrivent en Suisse ? Des vies en marge, un podcast du CSP Genève, 3 épisodes pour découvrir les réalités de l'asile en Suisse.
Les auditeurs le savent peut-être pas, mais il faut le rappeler, les centres fédéraux sont entourés de grillages, parfois barbelés. Les personnes en demande d'asile ne sont pas libres d'aller et venir. Elles sont fouillées à l'entrée. Il y a des agents de sécurité en nombre important.
J'ai passé dans un mare de centres. Je pense qu'ils sont au nombre de 7 ou 8. Et puis on m'a transféré aussi ici, à Genève. Et maintenant je suis ici. J'attends qu'on me convoque pour la procédure d'asile.
En septembre 2022, Patrick est arrivé en Suisse pour y demander l'asile après avoir subi des menaces dans son pays. Son témoignage nous permet d'avoir une meilleure compréhension des conditions d'accueil et de vie d'un requérant en Suisse. Bienvenue dans ce deuxième épisode, l'asile au quotidien, une vie de requérant.
J'ai arrivé au centre de Kiasso, puis ils m'ont bien accueilli. Et puis, je dirais, j'ai passé des jours là-bas, et puis on m'a dit qu'on va me transférer. J'ai été transféré à Boudry, puis Boudry, on m'a transféré à Chambrou. Mais d'abord, ils ont fait, je dirais, ils m'ont dit que c'est une erreur, ils m'ont transféré à Guifers. Je me suis allé à Guifers et puis on m'a dit que je ne suis pas dans la liste. Et puis Valorbe, j'ai quitté Valorbe vers Poya à Fribourg. Et puis Poya à Genève, dans les caves de Versoix.
Ces 3 dernières années, la Suisse a reçu entre 20 et 24 000 demandes d'asile. Les personnes nouvellement arrivées passent toutes par un ou plusieurs CFA, les centres fédéraux d'asile. Symbole de non-accueil, d'une volonté de dissuasion et d'accélération des renvois, ces centres offrent des conditions de vie difficiles, comme le souligne Sophie Durieux, médecin au HUG.
Ce que nous constatons, c'est que cet environnement psychosocial est aussi délétère pour les patients. Moi, je dis à nos patients, mais bien sûr que nous, en tant que professionnels de santé, on pense que chacun devrait avoir une chambre pour soi et que c'est quand même beaucoup mieux si la salle de bain, si elle est partagée, elle est vraiment propre et que la cuisine, vous puissiez vous faire à manger quand vous avez envie de vous faire à manger et pas attendre qu'il y ait 10 personnes avant qu'ils aient fait la cuisine. C'est évident pour nous, mais la réalité fait que c'est pas comme ça.
Mais le pire des cas où j'ai vécu, c'était vraiment à Valorbe. Avant, je voyais ça dans les films. C'est comme un prison. C'était vraiment très dit. Il y a des chambres où il y a 8 ou même plus de personnes. Vous devez vous asseoir dans les escaliers ou aussi sur les poubelles parce qu'il n'y a pas de chaises. C'était salle de bain commune. Il y a même des gens que c'était très difficile de se baigner parce que de faire la douche parce que ils étaient pas habitués à aller dans une douche où tu peux te retrouver avec 8 personnes. Et on m'a envoyé à Genève et puis et j'étais même content parce que j'aimais Genève. Le problème, c'est qu'on s'est retrouvé à Paris Expo, dans les tentes. Et un autre problème aussi, c'était, je dirais, des toilettes. C'était très loin. Donc, parce que c'était dans la cave, et puis dans cette salle, tu devais marcher aussi. Parce que c'était près de la sortie. Et de ces cours, il y avait aussi le froid. Alors, pendant la nuit, quand tu sortais, c'était vraiment très difficile.
Après une durée maximale de 140 jours dans un CFA, les personnes sont attribuées de manière aléatoire à un canton où elles sont logées en foyer.
Beaucoup de personnes vivent très 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 longtemps dans des foyers collectifs, certains étant plus ou moins agréables à vivre et d'autres étant carrément difficiles à vivre sur un long terme avec une promiscuité très grande. Donc effectivement, les personnes ont qu'une envie, c'est de pouvoir bénéficier d'un logement ou se retrouver seul ou en famille et avoir son intimité, son indépendance au niveau du lieu de vie.
Assistante sociale au service réfugiés du CSP, Lucine Miseret accompagne depuis 19 ans les personnes qui arrivent à Genève.
On est à Genève, dans un canton où la crise du logement, ça fait des années qu'elle dure et puis c'est pas demain qu'elle va s'apaiser, où le logement est, malgré la loi, le logement est considéré quand même d'abord comme une marchandise, donc il y a beaucoup de régies privées qui gèrent les logements, ce qui fait qu'il y a relativement peu de logements disponibles, accessibles à des personnes qui ont des revenus modestes et qui plus est sont d'origine étrangère avec des statut plus ou moins précaire. Donc l'accès au logement privé, donc à un bail comme la plupart des citoyens de ce canton, est très difficile.
Les soutenir dans le processus d'intégration, les aider à comprendre le monde dans lequel elles arrivent, les innombrables démarches sociales et administratives, tout cela fait partie du travail de Lucine Miseret.
Les gens qui viennent nous voir, c'est des gens qui sont en difficulté. Le travail social, c'est un travail de relation d'aide. Donc, ils viennent avec un problème, avec des questions. Donc, ça, c'est un des points importants, c'est de les écouter, de créer un rapport de confiance avec eux. Et puis après, d'essayer de clarifier la situation, voir les points problématiques, les points qu'on peut améliorer, les points, les aspects sur lesquels on a prise ou pas prise, et puis de chercher des solutions ensemble avec les personnes.
Tant que leur demande d'asile est en cours d'examen, les requérants n'ont généralement pas le droit de travailler. Ils sont donc à l'aide sociale, mais une aide sociale au rabais, rappelle Lucine Miseret.
Dans le domaine de l'asile, le forfait d'entretien, il est à peu près moitié, voire moins que moitié que celui des autres domaines. À l'aide sociale ordinaire, pour couvrir tous ses besoins de base, une personne seule a 1006 francs. Une personne qui relève du domaine de l'asile, donc un permis N ou un permis F ou un permis S, il a 451 francs pour couvrir les mêmes besoins.
Au moment où nous parlons, ce montant d'aide sociale a été augmenté à 484 francs par mois.
S'acheter à manger pour tout un mois, c'est pas facile. Mais on est réfugié, on doit accepter ce qu'on donne et essayer de vivre avec ça et d'attendre peut-être les procédures.
Les personnes qui ont reçu une réponse négative à leur demande d'asile n'ont pas le droit à cette aide sociale. Ils reçoivent une aide dite d'urgence. Cette aide d'urgence, c'est une aide financière minimale de 12 francs par jour, mais c'est aussi, voire surtout, l'absence complète de perspective pour construire sa vie ici.
C'est des jeunes qui ont déposé une demande d'asile, qui se sont retrouvés dans une situation sans issue, à savoir qu'ils n'avaient pas la possibilité de travailler, parfois pas la possibilité de poursuivre leur formation, pas de perspective de retour au pays non plus, et l'impossibilité d'aller ailleurs en Europe. Il y a souvent une forme de méfiance, je dirais, ou de réserve sur la prise en compte des besoins de base des personnes, sur la prise en compte des compétences des personnes et de la volonté des personnes de s'intégrer, d'apprendre la langue et puis de devenir autonome. On met toujours en place, mais ça c'est bien au-delà du domaine de l'asile, des mesures plutôt de se dire que la plupart des gens qui viennent demander de l'aide, c'est parce qu'ils en ont besoin, et puis qu'il s'agit de personnes qui sont honnêtes et qui vont donner leur maximum pour sortir de cette situation-là. Et puis après, les tricheurs, on peut réfléchir le système autrement, mais pas commencer par traquer les tricheurs pour faire un système général où tout le monde passe dedans, quoi. Et ça, moi, je pense que si on arrivait à avoir un regard plus positif et plus constructif, plus respectueux aussi sur les personnes, et de les considérer plutôt comme des partenaires et de faire confiance en leurs compétences, en leurs envies, on pourrait simplifier beaucoup les choses et être beaucoup plus efficace aussi sur le long terme et sur l'usage des deniers publics, puisqu'il s'agit aussi de ça à la fin, quoi. Mais c'est quelque chose qui va un peu dans un contexte politique plus large où effectivement l'ambiance elle n'est pas à l'accueil, elle n'est pas à la considération des personnes qui viennent d'ailleurs et à la place qu'on peut leur faire. On n'est pas tellement dans une ambiance où on voit les choses comme une richesse, on voit les autres comme des richesses potentielles, on voit plutôt les autres comme des ennemis. Et ça se traduit dans les institutions et dans l'attitude des autorités.
En fait, il y a pas mal de personnes qui sont assises au Parlement qui n'ont jamais rencontré une personne requérante d'asile, qui n'ont jamais rencontré une personne réfugiée, qui n'ont aucune idée de où elles vivent, de qu'est-ce qu'elles vivent, de leur parcours, etc.
La députée genevoise Lena Strasser connaît bien le monde de l'asile. Elle nous raconte l'effet d'une rencontre avec des requérants d'asile sur ses collègues parlementaires.
On avait visité un foyer d'hébergement pour des requérants d'asile. Et en fait, les députés avaient pu entendre des personnes directement concernées. C'était dit tout à coup, « Ah mais waouh, en fait, ils parlent français !» Alors que dans leur tête, c'était des personnes qui ne parlaient pas français, qui ne voulaient pas s'intégrer. Enfin, il y a tout un tas de préjugés, de stéréotypes qui tournent autour de cette population, que de déconstruire ça en allant réellement au contact direct de ces personnes, ça nous a vraiment aidés à travailler sur le long terme.
Au niveau fédéral, on observe les mêmes mécanismes d'éloignement et de méconnaissance, relève Lisa Madson, ancienne conseillère aux États.
Quand tout à coup, il y avait ces maîtres d'apprentissage dans le canton de Berne qui ont été concernés par le fait que leur apprenti était frappé du non-entrée en matière sur leur demande d'asile et du coup devait cesser immédiatement leur apprentissage pour, dans la perspective d'un éventuel envoi, même sans être sûr que leur envoi ait réellement lieu. Alors tout à coup, là, il y a eu une mobilisation plus large. Et tout à coup, c'est devenu une réalité. L'absurdité de ce système leur a sauté aux yeux. Et ça, c'est la grande frustration, c'est que c'est très aléatoire. Ça dépend tout à coup d'une bonne étoile ou d'une situation d'un proche, d'un élu, qui va faire qu'il y aura une sensibilisation à telle ou telle problématique.
Mais de là l'importance aussi de faire des liens entre ces personnes-là et la société suisse, parce qu'en fait, c'est ça qui va permettre de faire émerger la problématique. Et puis de la relier à une problématique plus vaste et d'en faire un discours politique. Puis avec les CFA, c'est ce qu'on est en train d'enlever,
c'est
en fait.
C'est exactement ce que j'allais dire.
On est en train de mettre ces personnes-là dans des cadres où ils auront de moins en moins de contacts avec la population. Alors oui, ils auront des contacts avec peut-être des assistants sociaux, peut-être des juristes, peut-être certaines associations, mais ils n'auront plus la possibilité de créer des liens. Et moi, ça me fait extrêmement peur par rapport à la suite.
Ouais, ces centres fédéraux, je crois que c'est même l'objectif, c'est d'extraire ces gens de toute forme de socialisation avec leur monde environnant. Et puis c'est de toute façon explosif parce que du coup on concentre des personnes au vécu et aux histoires assez rudes et très différents dans un même lieu avec beaucoup de monde. Et après, on scandalise dès qu'il se passe la moindre chose. Mais le fait que ces centres fédéraux soient fermés pour la société civile, pour les bénévoles qui ont envie d'aller à la rencontre de ces gens à l'intérieur des centres, ça montre bien la césure qu'on est en train de faire. Et moi, je partage l'inquiétude. Je trouve que c'est aussi le reflet de l'image qu'on a de la requérante, du requérant qui ne fait pas partie de notre pays, et du coup, on ne lui fait pas, on fait pas de place.
Oui, y compris les enfants.
Garder des gens dans des abris PC ou à Paris Expo, c'est vraiment pas normal.
Créer des liens pour lutter contre les préjugés et montrer ce qui se passe derrière les murs, à l'écart de la société, ces conditions sont nécessaires à la défense de l'asile en Suisse. Cette défense passe aussi par la maîtrise d'un impressionnant arsenal législatif et juridique. Retrouvez-nous dans le troisième et dernier épisode de « Des vies en marge » où nous suivons Patrick dans son parcours pour obtenir l'asile.